Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous l'avez peut-être constaté ce matin, les files d'attente et les bouchons s'allongent devant les stations-service. Il faut parfois 2 heures pour faire le plein. Une station sur 10 serait à court de carburant. Le gouvernement refuse de parler de pénurie, mais mobilise ses réserves stratégiques dans les Hauts-de-France, région la plus touchée. Les automobilistes ont activé le plan B, passer la frontière direction la Belgique. Reportage de notre correspondant Maximilien Carlier.
Devant la station essence Q8, une longue file d'automobilistes, que des plaques françaises. Christophe ne patiente que depuis une vingtaine de minutes, supportable.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est 5 fois la file d'attente dans Belgique, quoi. En France, j'ai pas réussi du tout, mais en de l'essence, même la nuit, c'est impossible.
Sauf que le prix indiqué ici n'est pas le même qu'en France. 1,90€ le litre de gazole, c'est 20 centimes de plus, mais ce n'est pas un problème pour Thérèse et Emma.
C'est plus cher, mais franchement, là, j'ai pas la foi de passer ma journée à attendre.
À l'heure actuelle, vu le contexte de pénurie, je pense qu'on regarde pas tellement au prix. Hein.
Allez-y, madame.
Sullivan, un des responsables de cette station essence belge, est obligé de faire la circulation. Les Français avaient un peu disparu avec les primes gouvernementales. Il est plutôt content de les revoir.
C'est vrai que début septembre, c'était un peu plus calme. Bah ici, on rattrape un peu les coups perdus, on dit. Donc on est content.
Ça fait du boulot.
C'est vrai qu'une file comme ça, depuis 5 jours, continue de facilement une quinzaine de voitures. On n'a jamais vu ça. Non.
Même la nuit, il y a du passage, explique-t-il. Certains viennent à 3 heures du matin faire le plein. Ils en profitent même pour remplir leur jerrycan ou bidon d'essence, ce qui est interdit dans le Nord-Pas-de-Calais. Hertin, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et le porte-parole des pétroliers de France l'assure, les choses devraient rentrer dans l'ordre en milieu ou fin de semaine prochaine.
Voilà, nous sommes le vendredi 7 octobre, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, le plus fréquent en France. Alors parmi les avancées en termes de prévention, il y a la possibilité d'un examen personnalisé en fonction du profil de chaque femme.
Et c'est l'objectif de MyPEBS, programme international dont la version française est coordonnée par l'Institut Gustave Roussy à Paris. Il est spécialisé dans le traitement des cancers des femmes. Ont pu découvrir la maladie à temps grâce à cet examen, Yasmina Katou.
Oui, Sandrine a 53 ans et aucun antécédent familial du cancer du sein. Pourtant, son profil et ses résultats d'examen génétique montrent qu'elle est à risque élevé de développer une tumeur.
Quand on a l'aide pincée, c'est un facteur de risque. On peut avoir des petits seins de visu avec une grosse glande mammaire qui est un facteur de risque. Après, il y a eu un brin d'ADN qui a été identifié comme étant à risque. Aujourd'hui, le fait d'être en surveillance tous les ans, effectivement, ça me rassure.
Comme Sandrine, en France, près de 9000 femmes de 40 à 70 ans participent à l'étude MyPEPS. Les résultats ne sont pas encore connus, mais ils s'annoncent prometteurs. Corinne Baliguier est chef du service d'imagerie à Gustave Roussy et coordinatrice de l'étude.
On a pu identifier des femmes qui sont dans la catégorie risque un peu élevé, sont dans la tranche 40-50, qui n'auraient pas dû avoir de mammographie du tout. L'idée, c'est de diminuer les cancers du sein de stade 2 et plus. Et on sait que plus la tumeur sera petite, meilleur est le pronostic.
Grâce à ce projet, un cancer a été décelé chez une femme de 48 ans la semaine dernière. Avec le système actuel, elle aurait dû attendre 2 ans avant de faire sa première mammographie.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.
7h05, la guerre en Ukraine peut-elle mener à l'apocalypse nucléaire? Ce sont les mots employés cette nuit par le président américain Joe Biden.
Une mise en garde adressée à Vladimir Poutine qui n'est pas sans rappeler la crise des missiles cubains en 1962. L'URSS avait alors déployé des missiles à tête nucléaire et entraîné la réaction immédiate de Washington. Le monde n'avait jamais été aussi proche d'un conflit atomique. Bonjour Nicolas Toneff.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors je rappelle que vous êtes notre spécialiste Russie à Europe 1. Nicolas, qu'est-ce qui pourrait justifier les propos de Joe Biden lorsque l'on regarde la situation en Ukraine?
Eh bien c'est l'incapacité des armées russes à gagner par les moyens conventionnels. Les pertes territoriales se multiplient dans l'Est et dans le Sud. Les pertes matérielles sont gigantesques. Plus de 1200 chars d'assaut hors service, plus de 400 chars abandonnés en état de fonctionnement aux Ukrainiens qui se retrouvent ainsi mieux équipés qu'avant le début de la guerre. Et puis autre problème, des vidéos tournées par les recrues russes elles-mêmes le montrent, elles ne sont ni armées ni nourries. Autant dire qu'elles ne peuvent répondre à l'exigence d'une victoire obligatoire sans une aide extraordinaire au sens propre du terme.
Alors Nicolas, la faiblesse vient aussi de l'état-major russe.
Oui absolument, le Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, est mis en cause pour son incompétence. Le chef d'état-major, le général Gerasimov, est lui aussi critiqué. Le général commandant les opérations dans la région de Donetsk est considéré comme un incompétent notoire. La perte de confiance est donc totale, du haut en bas de la hiérarchie militaire, en transversal aussi, entre les armées et les représentants des clans extrêmes très puissants, hein, comme ceux du Tchétchène Ramzan Kadyrov et de Prigojine, le patron du groupe Wagner. Vladimir Poutine doublerait lui-même l'armée en commandant des opérations via des officiers de confiance. Cet éclatement des commandements est propice aux situations dangereuses et aux décisions extrêmes, surtout si les Ukrainiens continuent à progresser sur le terrain.
Nicolas Tonev, le spécialiste Russie à Europe 1, et les Européens déterminés à poursuivre leur effort de guerre en faveur de l'Ukraine. La France va livrer 12 canons César supplémentaires à Kiev, annonce d'Emmanuel Macron hier en marge de la première réunion de la communauté politique européenne à Prague. Réaction immédiate de la Russie qui a convoqué l'ambassadeur de France à Moscou pour lui faire part de sa réprobation.
À 7h07, les vendredis thématiques d'Europe 1 dans tous vos rendez-vous d'infos Europe Matin, Europe Midi, Europe Soir. On se penche ce matin sur cette passion française pour l'Égypte, l'Égypte des pharaons.
Ouais, l'Égypte ancienne, elle passionne tout le monde, quelles que soient les générations. Cette année 2022 est d'ailleurs une année égyptienne. On fête le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. On célèbre aussi un autre anniversaire. Il y a 200 ans, Jean-François Champollion déchiffrait les hiéroglyphes. Une exposition lui est consacrée au Louvre-Lens. Succès garanti. Reportage Wilfried de Villers.
Une exposition sur Champollion, Anaïs n'a pas hésité une seconde.
On va dire que j'ai eu un choc émotionnel lors de mon premier voyage en Égypte en 97. Et c'est vrai que dès qu'il y a une exposition, oui, je me précipite, on va dire, pour admirer les œuvres et les sculptures et toutes les explications qui sont associées.
Dans la salle du musée consacrée aux hiéroglyphes, Alain, lui, s'arrête devant une stèle gravée, fasciné. Retraité, il est de toutes les expositions qui touchent à l'Égypte.
Mais c'est tellement beau, ces hiéroglyphes, ces animaux. Alors, il y a des signes qu'on comprend très bien. Évidemment, on voit une chouette, on voit un faucon, on voit des trucs, on dirait des couteaux. C'est magique, quoi.
Une magie qui transporte aussi Pauline, artiste plasticienne. Elle est venue spécialement de banlieue parisienne. Très inspirée par l'Égypte, elle chasse même les événements sur le sujet, parfois jusqu'à l'étranger.
Là, cet été, je suis allée dans un musée à Copenhague. Et bien sûr, je suis allée dans l'endroit égyptien. Donc, je fais du chemin pour ça.
Prochaine étape du pèlerinage pour Pauline, la maison de Champollion à Figeac, dans le Lot. À Lens, Wilfried de Villers, Europe 1.
Voilà, et sachez que Vincent Rondeau, le directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, hein, sera notre invité tout à l'heure à 8h40. Le basket, on change, passé du coq à l'âne, hein, lui aussi fait l'objet d'une véritable adoration. Il a tout d'un futur pharaon du basket mondial. Il est français, les Américains n'ont Dieu que pour lui.
Et oui, Victor Wembanyama, 2m19, le français participe à une série de matchs amicaux aux États-Unis. Johan Tritz, il a encore brillé hier soir à Las Vegas.
Ouais, oubliez les casinos, l'attraction en ce moment, c'est bien lui. 36 points marqués cette nuit sous les yeux de son compatriote Rudy Gobert, qui a assisté notamment à ce dunk ravageur. Tout ça au lendemain d'une performance déjà XXL. Le géant de 2m19 en tournée américaine avec son équipe des Metropolitans 92 a déjà tapé dans l'œil d'un certain LeBron James, le king en personne déjà sous le charme.
On a déjà parlé de licorne dans le basket, mais là, c'est un alien. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Être aussi grand tout en étant fluide et gracieux sur le terrain.
Grand défenseur, à droit de loin et mobile, le joueur de 19 ans fait déjà saliver les plus grandes franchises américaines. Tout le monde veut se l'arracher, mais il faudra attendre l'été prochain, où Victor Wembanyama est d'ailleurs annoncé, et depuis de nombreux mois, numéro 1 de la draft. Ce serait une grande première pour un Français.
Il a 19 ans, hein.
Oui, seulement
19 ans.
Ça, c'est de bonne augure avant la Coupe du Monde de basket l'année prochaine. Vous en parlez des Jeux.
19 ans, c'est l'âge auquel avait été drafté à l'époque Kobe Bryant. Donc voilà, c'est la marque des génies. On lui souhaite, enfin voilà, en tout cas, Victor Wembanyama, on va en reparler, c'est sûr. Merci Christophe Lamarre, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30 dans un instant. Restez avec nous, passion égyptienne sur Europe 1. Aujourd'hui, c'est notre vendredi thématique. Florence Quentin, l'égyptologue, est avec nous dans un instant.